Actu.
Elle.
Et lui.
Actu.
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 Elle.
Et lui.
Elle.
Lui.
Elle.
Lui.
D'actuel.
Et lui.
Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue en direct pour ce nouveau numéro d'Actuel et lui. Bonjour les filles.
Bonjour.
Bonjour.
Salut.
Comment allez-vous?
Bah, la forme, on a du soleil.
Ouais.
En pleine forme. Bah, j'espère que pour la rediff.
Il y aura du soleil. Voilà. Maintenant, il y a du soleil tout le temps.
Il y a du soleil tout le temps. Okay.
Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui,
Aurélie?
Alors, moi, je vais vous faire une petite chronique sur Jonathan Nociter.
Très bien.
Je ne sais pas qui c'est.
Voilà. On va en prendre un petit peu plus avec ta chronique, Aurélie. Et toi, Guillaume, tu vas nous parler
Moi, je vais vous parler de musique. Et voilà, on parlera d'une nouvelle artiste qui a fait le buzz un peu cette semaine. Et donc, on va continuer.
Donc, tu vois, plein de nouvelles personnes qu'on découvre aujourd'hui. Et toi, Anne-Marie?
Ah, bah là, ça ne sera pas des nouvelles personnes, parce que justement.
C'est du changement quand même.
Elles sont plutôt vieilles. Moi, je vais vous parler des têtes couronnées.
Ah. Waouh, Anne-Marie Berne.
C'est ça.
Elle est blonde aujourd'hui.
Bien, alors Aurélie, tu commences avec un homme qu'on ne connaît pas.
Oui, effectivement, Jonathan Nociter. Donc, une fois n'est pas coutume, un petit extrait pour vous donner un petit indice pour vous expliquer de quoi je vais vous parler. Ah non, pas de petit extrait. Non, Guillaume me fait des yeux, il vient de sortir de sa tête.
Non, je ne l'ai pas.
Ah, tu l'as pas. Bon, bah tant pis. Dommage, c'était pour la blague. Bah, je sens qu'on est mal barré hein, aujourd'hui.
On a quelques problèmes techniques. Pour
voilà,
dire,
c'est pas grave. Donc alors, je vais quand même vous faire la blague. Donc c'était un petit indice. En fait, c'était une chanson à boire pour vous aider à deviner que Jonathan Nociter était un journaliste américain dont vous avez peut-être vu le fantastique documentaire Mondovino sur donc le monde du vin. Et c'était voilà, c'était ça la petite chanson à boire.
Ah, c'était pas aller viens boire un petit coup à la maison.
Non. C'était une déclinaison. Je me rappelle plus si c'était ça peut-être bien. Oui. C'était une chanson à boire.
On aurait pu le chanter, t'aurais été avec un...
Ah bah voilà.
Allez, viens boire un petit coup à la maison.
Je sens que Ludo va nous couper l'antenne.
Il y a du vin, non, du saucisson.
On prépare la fête de la musique, hein, vous voyez.
Voilà. Donc son actu, en fait, c'est un nouveau documentaire, donc toujours sur la viticulture, mais plus spécifiquement en Italie cette fois-ci, qui s'appelle Résistance naturelle. Donc il sort le 18 juin. Mais a été présenté en fait en avant-première au Festival de Berlin. Donc Jonathan Nociter, c'est un cinéaste américain, comme je vous ai dit, de 51 ans, qui vient récemment d'être naturalisé brésilien, vit à Rome et parle très bien le français. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Il a réalisé Sunday en 97, qui a quand même gagné le prix du meilleur film à Sundance et à Deauville. Ensuite, Sing and Wonder en 2000, donc nominé pour l'Ours d'or de Berlin. Et enfin, Rio Sex Comedy en 2010. Mais effectivement, il est surtout connu pour son Mondovino en 2004, donc un documentaire critique sur le monde du vin présenté au Festival de Cannes quand même. Et dans le prolongement de ce film, il avait ensuite publié Le goût et le pouvoir chez Grasset en 2007. Donc dans Mondovino, il enquêtait sur le phénomène de la standardisation du vin en prenant le parti radical de défendre la diversité des goûts et des terroirs contre une uniformisation culturelle qu'il considérait comme mortifère. Donc il avait réenchéri ensuite, donc en explorant cette fois-ci l'univers de la dégustation du vin dans ce livre-là, Le goût et le pouvoir, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc Jonathan Nociter braque à nouveau ses caméras sur le monde du vin. Cette fois, il tourne donc son film en Italie. Il donne la parole aux vignerons naturels, donc qui ont plus ou moins été jetés hors de leur appellation, mis à l'amende, menacés parfois. Ils s'entêtent en fait à faire un vin artisanal et naturel, sans pesticides et sans chimie, faisant preuve là d'une résistance et manifestant une liberté qui déborde largement le cadre du vin.
Donc, il s'interroge encore sur ces questions d'industrialisation et d'uniformisation des vins.
Oui, du goût. C'est vraiment du goût. Voilà, du goût. L'uniformisation du goût, c'est vraiment son idée, ne pas qu'on puisse chacun pouvoir avoir, en fonction de son terroir, de son travail, un vin différent. Donc, il fait le constat de cette oppression réglementaire sur les artisans. Il entrevoit par ailleurs une issue, quand même, c'est pas toujours pessimiste, un modèle. Mais le véritable enjeu, alors je le cite, hein, mais le véritable enjeu aujourd'hui, c'est la révolution. Du vin naturel, une révolution pour le vin, mais aussi pour tout artisan ou artiste et citoyen concerné. C'est une réponse individuelle face à cette sensation que nous avons tous que le monde est en train de s'écrouler. Donc les propos de Nociter, le propos de Nociter, c'est aussi d'affirmer que cette minorité d'artisans au mode de production insoumis, ces rebelles, un peu parfois désorganisés, qui dérangent de plus en plus, n'est pas aussi sans conséquences pour eux. Alors, je le cite à nouveau, beaucoup de ces artisans ont des problèmes avec la répression des fraudes. Des fonctionnaires envoyés, pardon, je le cite, pour les faire chier, parce qu'ils commencent à déranger les industriels, les gens installés dans le pouvoir agricole. Alors, il donne l'exemple de Stefano Bellotti, un des organisateurs des journées de l'illégalité, qui est vigneron au domaine de Cassigna, d'Egli ou Livi, au sud du Piémont. Lui, c'est un vrai radical qui réfléchit autant qu'il travaille ses vignes. Il vient d'être harcelé par la répression des fraudes et tu sais ce qu'il a fait ? Il a planté 5 arbres dépêchés au milieu de ses vignes, ce qui lui a valu une amende de 50 000 euros et la perte d'une subvention de 200 000 euros. Parce qu'il a fait beaucoup de recherches en fait, pour éviter l'emploi du cuivre, du soufre dans ses vignes, donc aller vers un vin plus naturel, par la présence en fait, d'autres cultures. Il a en fait que 10 hectares de vignes et il pratique des prix plutôt raisonnables. Du coup, c'est quelqu'un qui ne peut pas vraiment absorber une perte pareille. Et pourtant, ce n'est pas, c'est pas un hasard, enfin, d'après eux, si c'est lui qui a été attaqué, ce Bellotti, parce que c'est un peu une grande gueule.
Voilà. Mais il y a eu récemment aussi un procès en France, justement, avec un vigneron qui avait...
Oui, Monsieur Cousin en Anjou, en fait, en Maine-et-Loire, qui est quelqu'un qui...
qui avait refusé de mettre des pesticides.
Voilà, alors il a refusé de mettre des pesticides. En fait, c'est quelqu'un qui ne suit pas à la lettre les préconisations de l'appellation Anjou, mais qui considère que puisqu'il est en Anjou, il a le droit... Enfin, lui, hein, je parle de son point de vue, il considère qu'il a le droit de mettre 20 produits en Anjou. Sauf que Anjou, c'est une AOC, donc c'est une marque déposée protégée avec un cahier des charges. Et donc, il a été attaqué, effectivement, par la Fédération des vins d'Anjou. Mais il a gagné. Effectivement, là, il a fait preuve de sa bonne volonté. Il a été, comme je dis, il a gagné. Il a pas dû payer en fait, d'amende exorbitante. Voilà, il s'en est pas trop mal sorti, parce que je crois quand même qu'il a été condamné. Voilà, donc effectivement... De toute façon, tous ces gens-là, ils sont dans le même état d'esprit, ils travaillent de la même façon.
Et puis, enfin, quand même, les vignerons en France, on a l'impression qu'ils sont aussi menacés par les industriels asiatiques qui viennent quand même sur le marché français, qui rachètent aussi beaucoup de vignobles. C'est peut-être un métier même qui est en danger.
Après, la façon dont eux, ils travaillent la vigne, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec l'industrialisation. C'est des gens qui travaillent exclusivement à la main, déjà, avec un cheval. Le cousin, là, il laboure toujours ses vignes, il entretient...
Ah oui, donc c'est vraiment à l'ancienne.
Ah oui, voilà, il entretient ses vignes vraiment, il les laisse croître en effectuant des tailles raisonnées. Et puis, bon, après, c'est quelqu'un qui travaille, je crois, en biodynamie, donc il va même plus loin dans l'intérêt pour la plante en fait en elle-même et il travaille sur des très petites surfaces, rien à voir effectivement avec les machines à vendanger,
ressent cette différence au niveau du goût ou pas ?
Ah bah oui, ça donne des vins. Après ça donne aussi des vins qui parfois peuvent on peut rater une cuvée. Malheureusement, parce qu'il y a toujours un risque que ce soit moins stable. Mais du coup, ça veut dire que chaque année, on a aussi un peu la surprise, on a un peu la découverte, on a
des vins qui ne se ressemblent pas du coup d'une année sur l'autre.
C'est ça, pour le goût, en fait, on va se dire, tiens, c'est marrant cette année. Alors, on n'est pas forcément dans le goût de banane du Beaujolais, mais on va dire, tiens, il y a une typicité. C'est vrai qu'il a beaucoup plu, qu'il n'a pas fait beaucoup de soleil, ou l'inverse. Voilà.
Oui, après, on constate aussi que les terroirs, pour avoir été chez des vignerons, selon les terrains, les vins, en tous les cas, le jus de raisin en fermentation a des goûts très différents. Et derrière, justement, c'est cet assemblage-là qui fait aussi le vin. Et donc, ça nous amène un peu aux techniques de fabrication. C'est parfois un geste un peu artistique, un geste. C'est un peu de sentiment, un peu de.
Effectivement, tout à l'heure, on parlait de la vigne en elle-même. Donc, déjà, pour la question sur les terroirs de ta question, une vigne, ça a des racines qui descendent à 12 mètres de profondeur. Donc, forcément, on peut penser que ça s'imprègne vraiment beaucoup du terroir. Et puis ensuite. Le travail que va faire le vigneron, là, pour le coup, qui est plus seulement viticulteur au sens agriculteur, mais bien fabricant de vin, il va effectivement assembler ses cépages de façon à obtenir un vin particulier. Et du coup, c'est vrai que on peut on Dans l'élaboration de ce film, Nociter, il a travaillé un peu aussi de cette façon. Il a fait son film avec les moyens du bord et il a en fait été un peu assemblé comme un vin en toute liberté, dans un esprit un peu expérimental. En fait, on aperçoit des goûteurs de ses amis à qui il fait tester différents assemblages lors de projections ponctuelles un peu de son work in progress, là, de son film au fur et à mesure où il se construit. Donc le cinéaste a recueilli des extraits de ses films sur Internet ou ailleurs, des extraits de films, enfin pas que des films à lui. Il a été recueillir donc des différentes pratiques culturelles actuelles et il les a glissées en fait dans le montage entre les paroles de ses amis qui du coup deviennent un peu des fils rouges, des personnages récurrents du film et finalement de leur film. Donc il y a un petit peu des contre-champs, on va déchiffrer au fil du film en fait tout ce qui se passe et ces extraits viennent à la fois honorer un cinéma un peu anticonformiste avec des goûts variés et offrir des contre-exemple un petit peu ironique, sans jamais forcément être lisible au premier coup d'œil. Un peu comme les vins naturels qui vont surprendre par leur goût, émancipent des palais curieux par leurs ressources et viennent ensuite troubler le jeu clair d'un cinéma engagé et ouvrent sur peut-être une nouvelle voie avec un cinéma qu'il faudra suivre à l'avenir. Donc c'est un peu aussi une enquête sur le cinéma indépendant et en tout cas ça laisse penser que des bases sont jetées. Il a, lui, théorisé cette façon de travailler en plusieurs langues, puisque je vous ai dit qu'il était polyglotte, dans l'Internazionale en italien, dans Libération en français, El Globo en portugais brésilien. Et il a donc écrit ce manifeste qui vraiment appelle un cinéma artisanal en hommage à son inspiration initiale, et du coup on pourrait l'appeler un cinéma naturel. Donc on a quelques analogies poétiques avec des vignerons qui proposent donc un modèle éthique et économique viable, mais pour des entreprises artisanales et collectives, un peu sur le modèle du micro-marché avec l'aventure du gratuit, l'artisanat, mais néanmoins qui pourrait être suffisamment rentable pour une vie honnête, la modestie, l'humilité, voilà les valeurs un peu du monde agricole.
Alors, pour toi, il existe un lien intrinsèque entre le vin et le cinéma ?
Alors, j'aurais tendance à dire oui, puisque avec cette expérience et ce documentaire, on remarque qu'il y a un certain lyrisme qui peut y avoir entre les deux. Et puis, il y a cette lutte contre l'industrie, alors l'industrie cinématographique, mais du coup, qui a largement rejoint l'industrie viticole, ou d'ailleurs avec un petit clin d'œil, puisque le tout Hollywood s'est offert quand même un certain nombre de vignes. Le Médoc est devenu plus hollywoodien depuis qu'un critique américain y fait régner la terreur. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le guide par cœur des vins, mais c'est en général, c'est vraiment son goût à lui. Et du coup, il a tendance à l'imposer au monde entier comme seul critère d'évaluation et à vraiment uniformiser les choses. Après, ces deux sources, cinéma et vin, pourraient être une façon de réenchanter un peu le quotidien en toute, avec modération, bien sûr. Enfin, pour l'un, pour l'autre, on peut y aller sans modération. Le cinéma, c'est pas un problème. Voilà.
Non, mais je pense que si on boit un petit peu trop, on voit le quotidien différemment, c'est sûr.
Voilà, c'est ça.
Mais on va peut-être
avec modération. C'est ça. Et du coup, il faut éviter, en tout cas, pour les vins comme pour les films, que tout se ressemble et prenne un goût un peu sucré, boisé, censé plaire au plus grand nombre, parce que plus naïf et tenant la coupe de l'amertume un peu éloignée, et voilà, les petits oiseaux.
Et sinon, on peut quand même rappeler qu'à Mende, à la fin juin d'ailleurs, il y a le forum du vin organisé par l'association Les Sarmentelles.
Voilà.
Et c'est vrai que pendant 2 jours, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut rencontrer les professionnels et surtout aussi avoir des cours d'œnologie. Moi, je ne sais pas si vous en avez déjà pris là, justement, pendant le forum du vin. Moi, je l'avais fait il y a 2 ans, je crois. J'avais pris des cours. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant de savoir quel vin pour quel plat. Et puis, généralement aussi, ça permet de casser un peu les préjugés, oui. Où on pense toujours que le fromage, par exemple, c'est avec du vin rouge. Bah non, pas spécialement, donc je trouve ça intéressant.
Et puis c'est ce que font aussi les Sarmentelles tout au long de l'année.
Tout à fait.
Pour ceux qui auraient envie justement de découvrir des vins ou d'en faire partager à d'autres. C'est le
but J'étais deux fois plus dans l'actu que ce que je croyais, alors voilà.
Exactement, oui, parce que je crois que c'est fin juin,
c'est
aussi,
bientôt, j'ai vu, effectivement.
Voilà, sur deux jours, il y a le forum du vin. Donc
avec le prix aussi qui est remis... un prix qui est remis à cette occasion.
Puisqu'il y a un jury, effectivement, qui distingue les meilleurs vins.
Bien, alors qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter en petite pause musicale?
Eh bien, pour rester dans le côté artisan et vin, je vous propose d'écouter quelqu'un qui ciselait justement sa musique et ses paroles, donc Georges Brassens, avec le vin.
Avant de chanter ma vie, de faire des harangues dans ma gueule de bois, j'ai tourné cette fois ma langue. Je suis issu de gens qui n'étaient pas du genre ressort. On compte que j'eus la tété au jus d'octobre. Mes parents ont dû me trouver au pied d'une souche, et non dans un chou, comme ces gens plus ou moins louches. En guise de sang, aux noblesses sans pareille, il coule en mon cœur la chaude liqueur de la treille. Quand on est un sage et qu'on a du savoir boire, on se garde à vue en cas de soif une poire. Une poire ou deux, mais en forme de bonbon. Au ventre replet, rempli du bon lait de l'automne. Jadis aux enfers, certes il a souffert tant à le, quand l'eau refusa d'arroser ses amygdales. Être assoiffé d'eau, c'est triste mais faux bien dire que l'être de vin, c'est encore 20 fois pire. Hélas, il ne pleut jamais du gros bleu qui tâche. Qu'elle donne du vin, j'irai traire enfin les vaches. Que vienne le temps du vin coulant dans la Seine. Les gens par milliers courront y noyer leur peine.
Actu,
elle
et lui.
En tout cas, ça fait du bien d'écouter un petit peu.
Anne-Marie,
ça y est, ça repart. Non, je disais que c'est appréciable d'écouter du Brassens, voilà. C'est pas souvent. Bon, ben, en tout cas, bienvenue donc, dans cette deuxième partie d'Actuel et lui. Et donc, tu nous as dit, Guillaume, que tu voulais nous parler de musique avec une jeune
artiste. Oui, je vais vous parler d'un premier album d'une artiste qui a créé le buzz cette semaine après un concert live à France Inter le week-end dernier. Qu'on peut toujours réécouter et voir en vidéo d'ailleurs, avec une très belle réalisation cette vidéo, et puis donc la sortie lundi dernier de l'album. Voilà. Donc c'est une artiste qui a fait parler d'elle il y a quelques mois aussi déjà, puisqu'elle a été révélation aux Victoires de la musique, c'est Christine and the Queens, mais elle est toute seule. Voilà, et elle s'appelle Héloïse en vrai.
Oui, c'est ça qui est d'ailleurs surprenant. Enfin, je suis allée voir sur YouTube, je me suis dit c'est un groupe.
Mais vous allez voir, vous allez comprendre un petit peu qui sont les Queens. Et donc ce premier album, c'est Chaleur humaine. Et donc je vous propose d'écouter un premier extrait du titre qui porte le nom de l'album, Chaleur humaine.
Éponyme.
Qui est cette Christine and the Queens?
Alors, Christine and the Queens, c'est l'espoir de la chanson électro en français et en anglais, révélée donc aux dernières victoires de la musique et en première partie de la tournée de Stromae. Elle frappe un grand coup avec donc ce Chaleur humaine, oscillant entre un alliage voix et musique assez glacial et malgré tout une certaine chaleur du hip-hop que la Nantaise adore. C'est une rythmique un peu sophistiquée entre le trip-hop et la pop british, entre des envolées lyriques, des notes de piano, des mélodies froides, dansantes, dans un tempo maîtrisé. Voilà ce qui frappe d'emblée. Pourtant, paradoxalement, le choix du titre s'est porté sur Chaleur humaine, comme pour marquer à contre-pied les esprits malins qui entendraient, surtout chez Christine, une personnalité complexe, produisant des idées épurées, mais aussi parfois un peu inconciliables. Alors, cette demoiselle aime les sonorités urbaines ainsi que les influences de la chanson française, notamment Bachung, et des références qu'elle ne porte pas en étendard, parfois c'est même presque inconscient. Et donc Christine, alias et donc Héloïse Letissier, qui a 26 ans, a pensé son projet loin de Nantes ou de Paris, il y a 4 ans à Londres, bercée par le son de la ville, sevrée de hip-hop et de danse, et avec la proximité du réalisateur H. Workman, donc Metronymie notamment, qui l'a rassurée et lui a ouvert une vraie piste. Alors linguistiquement, Christine aime les langues anglaises et françaises et sa voix virevolte entre les deux idiomes avec sur une bonne partie de son disque. On a des chansons en français, en anglais. Voilà, parfois c'est même dans la même chanson que ça change. Donc il y a beaucoup de sentiments mélangés chez l'artiste, toujours fasciné par les contrastes, d'où peut-être son attirance pour le monde des drag queens, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Christine nous propose donc une reprise aussi dans cet album, en rajoutant bien sûr tout son style à la chanson Paradis perdu, une relecture donc de la chanson de Christophe, enrichie des paroles du hit Heartless du rappeur américain Kanye West. Voilà, c'est un véritable contrepoint à la VO de l'auteur à la version originale, oui, de l'auteur des Démos Bleus. Et elle déclare à RFI: c'est venu naturellement de réconcilier deux univers aussi différents que le hip-hop et Christophe. Ce dernier a, semble-t-il, beaucoup apprécié cette version au point d'inviter Christine à venir le rejoindre pour, bah, bien sûr, pour interpréter la chanson avec lui sur scène prochainement.
Oui, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que Christophe, ce n'est pas seulement Aline ou Les Mots Bleus. Il a sorti quand même dernièrement des albums. C'est limite électro. Ce n'est pas du tout Les Petits Mots Bleus des années 70, hein, quand même. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il aime bien aussi un petit peu ce... enfin, en tout cas, l'univers que présente, que propose Christine.
Alors, ce qui transparaît chez Christine, c'est ce sentiment de grande cohérence artistique, cet appel au rêve, on plane. Vraiment, enfin, je crois qu'en écoutant ce premier extrait, on est bien dans cet aspect-là. On jaloupe, on est saisi par cette galerie de fresques tout en équilibre. Il n'y a pas pour autant de titre à danser tout l'été, et elle dit à RFI, c'est étrange car je suis une fan du dance floor, mais je cherchais à dégager une sensation de mélancolie dans mes morceaux. Voilà, donc ça c'est fin de citation. Ce croisement de sons et de sentiments fera très certainement le bonheur de réalisateurs de cinéma pour des par exemple, parce qu'on est c'est vraiment c'est une ambiance aussi. Et effectivement, on ressent cette mélancolie, c'est bien joué. Voilà. Alors je vais vous proposer de aussi pour découvrir un petit peu d'autres titres, d'écouter le premier titre de l'album qui s'appelle Haïti.
Ça vit comme le def de kins, une fille with veins. I'm a red mural on a ship, an Irish with infants for my coronation. I rule over all my dead impersonations, cause I've got it.
Cette Christine and the Queen, ça a l'air d'être un personnage. Hein.
Oui, c'est un personnage, une énergie, une silhouette. Donc Héloïse ou Christine, elle est double. Mais tout en ne faisant qu'une, elle déclare à Libération.fr « En tant que jeune fille, je voulais créer un personnage qui soit en dehors des codes classiques de la séduction, car je ne me suis jamais sentie à l'aise là-dedans. C'est comme ça qu'est née Christine. » Elle dit aussi « Je ne suis pas entre deux, je suis tout ou rien. » Six mots tirés du film Freaks sont ancrés sur ses avant-bras. We accept you, one of us. Comprenne qui voudra. Depuis son enfance à Saint-Sébastien-sur-Loire, près de Nantes, où elle a grandi entre un père prof de littérature anglaise à la fac et une mère prof de français latin en collège, et un frère de 2 ans son aîné, elle n'a qu'une seule obsession, la scène. Elle se pointe en danse classique à 5 ans, mais arrête à cause d'un coup de pied dégueulasse, passe au moderne jazz dont elle nourrit ses scénographies d'aujourd'hui. Et elle explique toujours à Libération, quand on fait un travail artistique, on est dans une forme de séduction. C'est important de donner une image de désir. Après, ma manière de séduire est différente de celle que je vois autour de moi. Je suis plus celle qui séduit ou convoite que celle qui est convoitée. sa facette clownesque a toujours été. Au collège, on me disait « t'es bourré », alors que je suis juste fantaisiste. Voilà, ça fait le lien avec le vin et ses atmosphères un peu planantes.
Tu vois, Aurélie, t'es pas la seule.
La suite logique, c'est donc 2 années à Normal Sup pour faire, et en même temps du théâtre et conservatoire d'art dramatique de Lyon. J'adorais ça, surtout l'impro. Mais je ne me sentais pas du tout à ma place comme comédienne, déclare-t-elle toujours à Libération. J'avais l'impression d'avoir une palette restreinte, je n'aimais pas être dirigée, j'ai toujours eu du mal à me soumettre au désir de l'autre, j'avais aussi du mal à lâcher prise, à travailler en équipe. Alors, elle a commencé le piano à 4 ans, mais c'est en exil en 2010, c'est un exil qui scelle ses débuts dans la musique. Je venais de me faire larguer par une fille qui était devenue un homme. Je me suis fait virer du conservatoire, je séchais Normal Sup, je déprimais. Et donc, sur ce coup-là, départ pour Londres, rencontre dans un bar avec 3 travestis qui chantent du rock, un électrochoc. Elle dit « Elles m'ont convaincu de franchir le pas de la chanson, ce sont elles mes fées, mes queens ». Et voilà l'explication de Christine and the Queens. Alors, à sa naissance, son père s'est assis sur un miroir. 7 ans de malheur, ça commençait bien. Christine est aussi expansive et entourée sur scène qu'Héloïse est timide et solitaire. Elle vit avec ses 2 chats dans le 19e arrondissement parisien et confesse à Philippe Brochand de Libération.fr compter peu d'amis et avoir un mal fou à s'en faire et à les garder. Alors, est-elle mélancolique ? Elle répond « Souvent, je me dis que je vais finir seule, mais ça ne me déprime pas tant que ça. » Est-elle obsédée par la mort ? Si je n'avais pas été chanteuse, ce qui a été pour moi un moyen de faire de l'art, peut-être que je ne serais plus là. Dit-elle en prenant un accent appuyé du sud pour alléger ses dires.
Bah, elle est dépressive ou quoi, ta Christine
peu. Et elle finit en disant « J'y ai déjà pensé, j'ai même essayé, mais ça n'a pas marché. » Elle insiste « Puisque je vous dis que je suis d'un ennui, je ne picole pas, je ne fume pas, je ne prends aucune substance, sauf des médicaments, parce que je suis un peu hypochondriaque. » Voilà, un joli tableau en effet, et elle se reprend « Je ne suis pas tellement douée pour l'existence. Pour moi, la vraie vie, c'est l'art, la scène. Je veux disparaître là-dedans, que ça m'altère physiquement. » Et un mot surgit, sacerdoce. Alors Héloïse a toujours été une élève brillante, une perfectionniste maladive, qui aime le travail intellectuel, et tant pis si ça fait prétentieux. Une ambitieuse, mais plutôt sainement, pour se dépasser, pas pour taper sur les autres. Le travail pour s'accepter, à défaut de mieux. Je ne m'aime pas, mais j'aime ce que je peux devenir quand je fais quelque chose. Cela me rend plus acceptable à mes yeux. Du coup, je suis plus ouverte aux autres et plus généreuse. Voilà, la scène devient donc un exutoire. Je m'y sens incarnée, j'adore descendre dans le public, je vais voir les gens et me frotte à eux comme un pervers dans le métro.
Donc, enfin, ça, c'est une citation. Hein. Oui, voilà. Ne pas penser que c'est toi, Guillaume.
Oui, c'est une citation.
Tu fais comme tu veux. De toute façon, il n'y a pas de métro à Mende, donc comme ça, ça limite.
Beaucoup de citations dans cette chronique. Elle se sent fragmentée, pas du tout cohérente d'une seconde à l'autre. Et elle dit « Je pense qu'on est plusieurs, qu'on est en colocation. J'ai toujours l'impression que je fluctue dans une journée. Je peux donc être un mec le matin et une fille le soir. » Il en va de même de sa sexualité. Elle se dit bi, mais ne se pose pas la question. Quand je tombe amoureuse, je le suis de quelqu'un, d'une personnalité, pas d'un sexe. C'est pourquoi elle porte toujours un costume, pour annuler le genre, faire un truc neutre, en suspension. Alors forcément, Ziggy Stardust, le personnage créé et incarné par Bowie en 72, la fascine. Et ce qui lui plaît dans la culture queer, c'est l'appropriation du stigmate. C'est une citation, bien sûr. Et ces personnes ont vécu des situations de rejet et elles se réapproprient cela pour en faire des choses très fortes. Et son mantra, c'est « Dans ma vie citoyenne et perso, le transgenre est un combat ». Ouais, c'est un personnage.
Oui, mais on a l'impression qu'il y a plusieurs personnes dans sa tête.
Ça, voilà. C'est ça. Il y a du monde.
Et
voilà.
Elles sont en colocation.
Voilà. Et puis ouais, c'est une dépressive. Mais c'est bizarrement, tu vois, quand on entend son univers musical, ça ne me surprend pas du tout ce que tu nous as dit, parce que ça se ressent vachement. Et alors, donc, c'est ce que je te disais en off. Moi, j'avais vu son clip de Saint-Claude. Saint-Claude. Et c'est vrai que tout est particulier, quoi. C'est... Elle n'est pas du tout dans un moule, ça c'est sûr que sa musique n'est pas du tout commerciale. Enfin, je lui souhaite de réussir, mais c'est vrai, c'est particulier, quoi.
Mais c'est vrai que c'est ça aussi qui, je pense, fait aussi le buzz, fait bon, voilà, l'histoire des drag queens, l'histoire, enfin voilà, tout ce personnage, qui fait que ça buzz ces temps-ci. Mais voilà, c'était un petit peu l'envie de vous faire découvrir cette musique qui est plutôt sympa.
Ah non, mais tout à fait.
Voilà. Et donc, bah, je vous propose de terminer en écoutant son premier tube, entre guillemets. C'est avec ce titre-là qu'elle s'est présentée aux Victoires de la Musique. Ça s'appelle « Nuit 17 à 52 ».
Tu as une actualité
un moins mélancolique, beaucoup plus...
Mais très riche.
Très riche, c'est ça.
Doré.
Un peu people. Quand
voilà.
Doré.
Hein, donc maintenant, c'est la rubrique point de vue image du monde.
Exactement. Alors, laissez-moi devenir, le temps de cette chronique mondaine, Anne-Marie Berne, cousine très éloignée, hein, vous allez vous en douter, de Stéphane Berne.
Ou bien tu pourrais parler avec la voix de Frédéric Mitterrand, ça pourrait être drôle aussi. Une imitation.
Non. Mais je ne suis pas très bonne en fait en imitation. Enfin, je ne suis pas très bonne nulle part, mais bon. Alors, j'ai effectivement envie de vous parler des têtes couronnées au lendemain de l'abdication de Juan Carlos, ancien roi d'Espagne. Une chronique qui, je l'espère, permettra de faire le point sur les différentes monarchies qui font encore de nos jours un pied de nez au système républicain. Et nous nous poserons également une question. Les monarchies sont-elles aujourd'hui en danger ?
Anne-Marie lance le monarchiton. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une monarchie ?
Alors, en grec, mono signifie seul et arché signifie pouvoir. Donc, monarchie veut dire pouvoir d'un seul. Selon le dictionnaire Larousse, la monarchie est un régime politique dans lequel le détenteur du pouvoir l'exerce en vertu d'un droit propre, droit divin ou hérédité. Et donc, ce n'est pas un pouvoir exercé grâce, comme en France, à un vote du peuple. Voilà. Alors, il existe différents types de monarchie. Je cite d'ailleurs Wikipédia en faisant d'ailleurs quelques digressions. Alors, il existe trois types de monarchie. Donc, la première, c'est la monarchie dite monarchie constitutionnelle. Lorsque les pouvoirs du monarque sont définis par une constitution, d'où monarchie constitutionnelle, vous l'aurez bien compris, qui fixe par écrit des lois fondamentales prévoyant une séparation des pouvoirs. Le monarque héréditaire peut être roi ou reine, comme dans la plupart des monarchies européennes, mais aussi grand-duc ou grande-duchesse, comme au Luxembourg, prince, comme à Monaco ou au Liechtenstein, émir, comme au Koweït, ou empereur, comme au Japon. Donc, on a la monarchie constitutionnelle, et puis il y a aussi la monarchie dite parlementaire, lorsque le chef du gouvernement, nommé par le roi lorsqu'il y en a un, est responsable devant le Parlement. Dans ce cas, le monarque est le représentant de l'État au titre de chef de l'État, un arbitre et le garant de la continuité des institutions. On retrouve cette monarchie parlementaire au Royaume-Uni, en Espagne, en Belgique. Enfin, on a la monarchie absolue. Lorsque le monarque détient tous les pouvoirs, certains parlent alors de régime despotique, alors qu'il n'en est rien, car le roi se doit de respecter, malgré tout, les lois fondamentales du royaume, tandis qu'un despote ou un tyran n'est limité par aucun pouvoir supérieur. La France, par exemple, a été une monarchie absolue. Louis XIV a réussi à mettre en place cette forme d'absolutisme en développant une conception qualifiée par la suite de monarchie absolue de droit divin. Alors aujourd'hui, sachez qu'il existe quand même 11 monarchies en Europe. En Belgique, donc il y a aussi une monarchie dans les Pays-Bas, en Espagne, en Grande-Bretagne, en Suède, en Norvège, au Danemark, en Andorre, au Liechtenstein, au Luxembourg et enfin à Monaco.
Alors, cette chronique, c'est parce que Juan Carlos a abdiqué cette semaine, c'est pour ça que tu nous en parles ?
Effectivement, cette nouvelle est tombée le lundi 2 juin, bouleversant l'Espagne. Comme le veut le protocole, c'est le chef du gouvernement, Mariano Rajoy, qui a donc annoncé l'abdication du roi et l'ouverture du processus de succession. Alors, vous avez sûrement dû l'entendre. À 76 ans, Juan Carlos a été rattrapé par des affaires de corruption visant sa fille et son gendre. Il a été montré également du doigt pour des chasses à l'éléphant au Botswana, alors que c'est une espèce en voie de disparition et alors qu'il faut payer 37 000 euros pour chaque animal tué. 37 000 euros,
oui.
Je trouve ça énorme quand même.
Ce serait mieux de ne pas les tuer, mais bon.
La pilule ne passe pas, l'Espagne ayant du mal à se relever de la crise économique. Par ailleurs, dans un pays religieux et très pratiquant, le tableau de chasse de Juan Carlos, alors je vous rassure, moins sanglant évidemment que les chasses à l'éléphant, mais un tableau de chasse malgré tout sulfureux, l'a aussi affaibli. Face à sa faible cote de popularité, soit 41% d'opinion favorable chez ses sujets, Juan Carlos a donc préféré ôter sa couronne en faveur de son unique fils Felipe, prince des Asturies. D'après un autre sondage du journal El Mundo, 62% des Espagnols étaient favorables à une abdication. Donc autant dire qu'il était temps qu'il s'arrête.
D'accord, c'est une première dans l'histoire de l'Espagne, puisque en fait, effectivement, les abdications, c'est quand même assez rare.
Effectivement, alors Juan Carlos est surtout devenu donc, le premier roi d'Espagne après la dictature du général Franco. Mmh. Après avoir été prince des Asturies, donc comme son fils, de 1941 à 1975, il devient héritier officiel de Franco. Il s'applique alors à démocratiser le système espagnol et apporte une certaine modernité à son pays. Il parvient également à unifier l'armée et les différentes régions d'Espagne. Ses 38 années de règne débutent ainsi par un plaidoyer pour la liberté. Cheville ouvrière de la transition démocratique dans les années 70, Juan Carlos a insufflé un vent de paix après les dures années de guerre civile. Héros déchu, il lègue donc sa couronne à son fils, Felipe, qui, je vous le rappelle, a 46 ans. Cependant, le prince des Asturies devra encore attendre quelques jours avant de s'asseoir sur le trône. Effectivement, le Congrès des députés va devoir élaborer la loi organique qui régulera la succession après une abdication que la Constitution espagnole n'avait pas prévue. Parce que la Constitution espagnole avait tout simplement prévu que le Juan Carlos meure. Et donc, fait, Felipe serait devenu
le roi. Est mort, vive le roi, effectivement. Exactement. La monarchie continue.
Exactement.
Et en attendant, du coup, ce petit intermède, ça, les gens en profitent pour manifester.
Et oui, vous avez dû voir ça aux informations. Le pays est plus que jamais scindé en deux, car les mentalités aujourd'hui évoluent. Alors d'un côté, il y a les anciens qui plébiscitent les monarchies, nostalgiques d'un temps révolu. Et puis, ils sont aussi... ils remercient l'ancien... roi Juan Carlos de fait, parce que c'est lui donc qui a réussi à ramener la paix après la guerre civile du temps de Franco. Donc ça, ils sont nostalgiques d'un temps révolu. Et puis de l'autre côté, il y a des jeunes qui veulent vivre dans un État républicain, qui eux n'ont pas connu en fait la transition entre le général Franco et puis le règne de Juan Carlos. Ainsi, dans près de 40 villes, les Espagnols ont brandi ces derniers jours des drapeaux républicains. Il faut dire que les Espagnols ont de quoi se révolter contre la couronne qui leur coûte cher, voire très cher, dans un pays qui compte près de 6 millions de chômeurs, soit un taux de chômage de 25%, près de 26% même, finalement, de la population active. Alors, selon un article du Point, la note est salée pour faire vivre la monarchie. Donc là, je vous cite l'article du Point. 8,4 millions d'euros annuels sont versés par l'État à la famille royale. Juan Carlos touche par an environ 300 000 euros. Son fils Felipe, alors évidemment, je vous dis, Juan Carlos touche 300 000 euros, c'était du temps de son règne. On verra après comment ça va se passer pour lui. Son fils Felipe perçoit depuis plus d'une décennie la moitié du revenu de son père, soit 140 000 euros annuels. Quant à la reine Sofia, donc la femme de Juan Carlos et la mère de Felipe, donc quant à la reine Sofia, la princesse des Asturies, Laetitia, femme de Felipe et les deux enfantes, elles perçoivent une enveloppe globale de 375 000 euros qu'elles se répartissent entre elles. La famille royale espagnole est toutefois discrète sur le détail de ses dépenses, à la différence de la couronne d'Angleterre qui communique jusqu'aux frais de coiffeur de la reine. On ne sait rien du budget vêtements, décorations ou autres frais esthétiques des Bourbons. En revanche, on sait que le roi ne paye ni l'eau, ni l'électricité dans aucune de ses demeures qui sont à la charge du patrimoine national. Juan Carlos doit cependant verser un salaire aux 507 employés du palais de la Zarzuela à Madrid, rendez-vous compte, parmi lesquels figurent pas moins de 70 chauffeurs. Malgré ces révélations, le véritable coût de la monarchie espagnole reste une énigme. Le budget de 8,4 millions d'euros annuels ne représente qu'une infime partie des dépenses de l'État pour maintenir la monarchie. Les ministères de l'Intérieur, de la Défense, des Affaires étrangères et le patrimoine national ont à leur charge la sécurité, les déplacements et l'entretien des demeures. Le quotidien de gauche, Publico, considère que le coût total s'élèverait à 60 millions d'euros annuels. On est donc bien loin des 8,4 millions annuels.
Mais alors, dans les autres pays qui sont sous monarchie, par exemple en Angleterre, bon, voilà, la couronne britannique coûte cher, mais les Anglais ne descendent pas forcément dans la rue.
C'est même très surprenant. Alors, selon les sondages, seulement 17% des Anglais interrogés se déclarent ouvertement républicains. 17%, donc ça veut dire que le reste, ils sont pour la couronne d'Angleterre. La famille royale a réussi à se faire une place de choix dans le cœur de ses sujets. Alors, évidemment, grâce à l'aura de l'ancienne princesse Diana, grâce aussi au couple actuel très médiatique du prince William et de la duchesse de Cambridge. Il donne une image jeune, dynamique et sobre de la monarchie. La séparation grandissante de l'Église et de l'État, la levée des interdits pesant sur la minorité catholique et la rénovation de la Chambre des Lords permettent également la modernisation de la monarchie. Et puis le petit Georges, hein, né en juillet 2013, donc le fils de William et de Kate Middleton, passionne aujourd'hui les sujets de Sa Majesté, relançant l'intérêt de la couronne. Il ne faut pas oublier non plus qu'en Espagne, le taux de chômage est quand même supérieur à celui en Angleterre et que la couronne anglaise, certes, ça coûte cher aux contribuables, mais qu'elle rapporte aussi énormément au pays. Je vous donne un exemple, je ne connais pas les chiffres, mais lorsque le prince William s'est marié avec Kate Middleton,
ça a
fait vivre des foules terribles.
Effectivement, parce qu'au niveau touristique, voilà, c'était énorme.
Les bibelots, tous les...
Au niveau des hôtels-restaurants, c'était complet. Ils ont vendu énormément et continuent de vendre énormément d'objets. Donc, ça rapporte quand même beaucoup, et beaucoup plus qu'en Espagne, en fait. Alors, moins exposé médiatiquement, le futur roi d'Espagne, donc Felipe, hein, sa femme et leurs deux filles, donneront peut-être cette image de renouveau à l'Espagne. Certains voient en eux d'ailleurs les sauveurs de la monarchie espagnole. Aujourd'hui, 66% des sondés ont une opinion haute ou très haute du prince héritier. Et je vous rappelle quand même que Juan Carlos ne recueille que 41% d'opinion favorable chez ses sujets, soit une différence quand même de 25 points entre le fils et le père. Stable, sérieux, Felipe rassure les Espagnols. De son côté, la reine d'Angleterre n'a aucune envie de laisser son trône au prince Charles. C'est bien simple, Stéphane Bern, hein, vous en souvenez, c'est mon cousin très éloigné, a confié au micro de RTL il y a quelques jours de cela, la reine d'Angleterre n'abdiquera pas, elle mourra sur le trône en fonction. Malgré les nombreuses rumeurs d'abdication et malgré ses 88 ans, la reine Elisabeth II a bien l'intention de continuer à sortir ses nombreux chapeaux de toutes les couleurs lors de représentations officielles, comme durant le 70e anniversaire du débarquement en Normandie.
Ouais, c'est ce vendredi, bien sûr.
Ce vendredi, sauf quand ça sera la diffusion ou
Oui, on est en direct. Jour,
ce sera le 6, quoi.
Voilà.
Voilà.
Oui, c'est une date de l'histoire, quand même. Mais bon, on voit quand même qu'elle réduit un peu ses déplacements, quand même.
Elle réduit
la reine. Et pour partie, c'est Charles qui en fait un certain nombre. Et c'est même aussi...
à 88 ans, oui, je veux dire, nous, quand on aura son âge... Voilà.
Peut-être qu'elle attendait cet anniversaire aussi, parce qu'elle a quand même été très active pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle a eu un vrai rôle et ça pourrait être justement le bon moment après avoir participé à ces cérémonies, rencontrer des vétérans. Peut-être que, allez, ce sera pour bientôt.
Ah non, mais elle n'a aucune intention d'abdiquer. Hein.
Tu sais ça, toi ? Elle t'a téléphoné.
Oui. Non, mais.
C'est Stéphane qui l'a dit.
Je pense qu'effectivement, elle restera. Elle, c'est quand même une femme de caractère. C'est quand même une femme qui sait ce qu'elle veut. Qui a en plus, ses sujets ont une excellente opinion d'elle-même. Je veux dire, Juan Carlos, il a été poussé quand même vers la porte de sortie. Alors qu'Elisabeth II, pas du tout. Alors qu'effectivement, maintenant, à l'aube de ses 89 ans, elle disait un petit peu stop à tous les déplacements, ça j'entends bien. Mais je pense qu'elle compte quand même rester sur le trône. Et puis Charles aussi, je pense qu'il n'est pas prêt du tout à endosser cette responsabilité.
C'est
aussi.
Peut-être même pas dit que finalement Charles
soit un jour roi.
Je pense qu'elle a toujours vu William comme son héritier finalement. Ouais.
Alors, mais peut-être nous en dire un tout petit peu plus sur le rôle de la reine d'Angleterre.
Oui, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à penser qu'elle fait un peu pot de fleurs justement lors des représentations, alors qu'elle est quand même le chef des armées. C'est elle qui nomme le Premier ministre issu de la majorité parlementaire. Elle est également chef de l'Église anglicane et entérine la nomination des prélats. Enfin, elle peut s'opposer à des lois, accepter ou refuser la dissolution du Parlement.
Alors, on change de paysage
Et on va parler de la monarchie monégasque.
Sur le rocher.
Alors, l'autorité des Grimaldi a été définitivement reconnue en 1314 et s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui, à la seule exception de la période 1793 à 1814, pendant laquelle Monaco fut intégré à la France sous le nom de Fort Hercule. La ville est ensuite placée sous protectorat du royaume de Sardaigne par le congrès de Vienne jusqu'en 1860. Enfin, en 1861, un traité franco-monégasque assure la souveraineté de Monaco. Alors, il faut savoir que Monaco est une monarchie constitutionnelle, hein, comme on a pu le voir au tout début de ma chronique, depuis 1911, avec un prince à la tête de l'État. D'après la Constitution de 1962, le prince partage le pouvoir législatif avec le Conseil national. Les affaires locales sont du ressort du conseil communal, une assemblée de 15 membres élus pour 4 ans au suffrage universel direct et scrutin de liste plurinominale à 2 tours. Voilà, donc toutes les petites affaires, on va dire, de routine, le prince s'en occupe pas, ça va de soi.
Donc effectivement, là, on a beaucoup entendu parler de la famille Grimaldi ces derniers temps. Tu nous en dis un petit peu.
Alors effectivement, Monaco a été sous le feu des projecteurs à deux reprises ces derniers jours. D'une part, côté salles obscures, le dernier film d'Olivier Dahan a fait l'objet de nombreuses critiques lors de l'ouverture de la 67e édition du Festival de Cannes. Le réalisateur de La Môme a réalisé un biopic sur Grâce de Monaco. Beaucoup de journalistes l'ont trouvé lisse et sans émotion, interprété cependant brillamment par Nicole Kidman. Sans surprise, la famille Grimaldi a appelé à boycotter ce film tourné, selon Albert II, Caroline et Stéphanie, à des fins purement commerciales. D'autre part, Monaco a été cité dans les pages People des magazines il y a quelques jours, puisqu'un communiqué émanant du Rocher annonçait ceci. Le prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco ont l'immense joie d'annoncer qu'ils attendent un heureux événement. Les dernières rumeurs voudraient que la princesse Charlène soit enceinte de jumeaux. Une information non confirmée par la famille Grimaldi.
Et là, tes sources nous apprennent rien.
On a pas
tu sais pour la reine d'Angleterre, mais tu ne sais pas pour Charlène de Monaco.
Comment veux-tu que je le sache
Je ne sais pas, tu étais
médecin.
Pour la reine d'Angleterre, tu étais sûre.
Ce n'est pas moi qui ai fait l'échographie.
Mais comme tes sources ont l'air fiables, je me dis que ça aurait pu fuiter.
Non, mais après, pour Elisabeth II, c'est ce que moi je te dis, c'est mon opinion. Ah. C'est pas une source comme toi, tu n'as pas eu de source quand tu dis ça. Donc, c'est un jugement.
Mais il est déjà père.
Effectivement, ce futur enfant ne sera pas le premier pour Albert II, puisqu'il a déjà eu deux enfants nés hors mariage, âgés aujourd'hui de 22 ans et de 10 ans. Mais donc le seul enfant de la princesse Charlène sera bien celui qui montera sur le trône et pas les deux autres.
Il devait dégoûter les deux autres.
Écoute, en même temps, c'est la vie.
Ouais. Donc, moins médiatisé, tu pourrais quand même nous parler aussi de la famille royale belge, une autre
famille royale qui a connu aussi des rebondissements, puisqu'en juillet 2013, donc il n'y a même pas un an, le roi Albert II a abdiqué après 20 ans de règne. Il a donc laissé sa place à son fils aîné Philippe. Il ne faut pas non plus oublier l'abdication de la reine Béatrix des Pays-Bas en janvier 2013 au profit de son fils Willem-Alexander. Alors voici ce que la reine a déclaré le jour de son abdication. « Je me retire car ma fonction m'est trop lourde, convaincue que la responsabilité de notre pays se trouve dans les mains d'une nouvelle génération. » Précisant que le fait que 2013 soit l'année aussi de son 75e anniversaire et le 200e anniversaire du royaume des Pays-Bas. Donc finalement, le fait qu'elle abdique en 2013 était une indication qui l'a poussée à quitter sa fonction cette année. Donc finalement, en un an, on voit qu'il y a eu quand même trois abdications. Alors,
c'est la tendance.
C'est pas pour autant que ce soit à la mode, mais
c'est la tendance de la monarchie.
Il y en a quand même eu trois en un an. Donc toutes ces monarchies de plus en plus médiatisées, soucieuses de leur image, préfèrent se tourner vers l'avenir et mettre en avant des descendants sérieux. Dans un monde d'incertitude, les familles royales veulent être des repères pour leurs sujets. En se modernisant, ces monarchies assurent ainsi leur pérennité.
Bien, mais voilà, on a rêvé un peu de strass et de paillettes. Qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter pour rester dans cette thématique ?
Alors pour rester dans cette thématique, moi je vous propose un extrait de la comédie musicale Le Roi Soleil.
Bah oui.
Et donc la chanson c'est Être à la hauteur.
Voilà, on prend tous nos couronnes et c'est parti. Voilà. Ça veut pas partir ? Si ? Ça part.
Je me lève jour après jour, c'est un jour ordinaire. J'en connais déjà le cours, le poids d'un parcours nécessaire que je dois faire. Parce qu'on n'a jamais le choix de ces murs de sa terre. Qui nous enferme à l'étroit, l'étroit d'une grandeur solitaire. Mais pourquoi faire être à la hauteur de ce qu'on vous demande, ce que les autres attendent, et surmonter sa peur d'être à la hauteur. Chaque jour répondre à l'appel et avoir à cœur d'être à la hauteur.
se voir quotidien. Un costume qu'il faut mettre pour un rôle qui mène à rien. Mais faut-il vraiment s'y soumettre jusqu'à la fin pour être à la hauteur de ce qu'on vous demande, ce que les autres attendent, et surmonter sa peur d'être à la hauteur du commun des mortels, pour chaque jour répondre à l'appel et avoir à cœur d'être à la hauteur, d'être à la hauteur, être à la jamais en descendre et ne pas se défendre de vouloir en vainqueur être à la hauteur autrement que mortel, enfin ne plus répondre à l'appel, ne plus avoir peur.
Elle
et lui.
La virgule a mis un peu de temps parce qu'on est en train de vous préparer les prochaines émissions.
Parce que tu dormais.
Voilà, c'est ça. On faisait une petite conférence de rédaction, on va dire ça comme ça.
Non, t'essayais de voir si on allait pouvoir tout préparer et toi pas faire grand chose en fait.
Là, on vous parle évidemment de l'émission spéciale de la fête de la musique le 21 juin prochain.
Voilà, en direct. Donc tout ça, c'est en train de se préparer. On vous en reparlera bien sûr sur 48FM. Voilà, soyez au rendez-vous de cette journée du 21 juin, puisque toute la journée, vous aurez une antenne spéciale avec les voix de 48FM, tous les gens qui font des musicales, tous nos partenaires qui viendront justement faire leur sélection et faire leur fête de la musique sur nos ondes. Voilà. C'est la fin de cet actuel et lui, c'est triste, mais on va vous souhaiter une bonne après-midi, une bonne fin de journée.
À bientôt.
Et à bientôt.
Et à bientôt. Dans 15 jours, de toute façon. Les rediffs, non, mais on ne l'a pas dit. C'est ça qu'il faut rajouter.
Ah, c'est ça, les rediffs. Bah oui.
Les rediffs. 18h.
18h11. 10, 11.
Oui, 11.
18h11. 11. Le mardi.
Et le jeudi, midi et demi.
Voilà.
À bientôt.
À bientôt.
Actu.
Elle.
Et lui.
Actu.
Actu.
Actu. Elle et lui.
Elle.
Lui.
D'actuel.
Et lui.